Voilà une manière aussi de lire les choses prises dans le Nouveau Testament. Mais toujours, c'est le texte qui fait loi, en quelque sorte. Ça ne nous dit pas tout, mais ça vous montre au moins comment ce texte reflète. De là, il y a une question qui se pose. C'est cette fameuse question des anges. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent sur les anges alors que les anges n'ont pas été nommés? Et déjà, les rabbins se posaient la question de savoir quand est-ce qu'ils ont été créés? Il n'y a pas de place pour eux. Alors certains rabbins disent, c'est évidemment le premier jour, quand il a créé la lumière et les ténèbres.
D'autres rabbins disent,
c'est évidemment le sixième jour, quand il a créé l'homme.
Parce que les anges sont des intermédiaires
entre Dieu et l'homme. Je vais maintenant chercher un autre truc de livre que je n'ai pas encore pris jusqu'ici. C'est un livre de dogmatique.
Et c'est celui de Robert Guelluy qui est remarquable sur la création.
Le mystère. C'est un livre absolument remarquable.
Une vision d'une profondeur et d'une actualité extraordinaire. Donc c'est dans la collection Le Mystère Chrétien qui a paru chez Desclée. Oh, il y a déjà quelques années. Oh oui, mais il y a des choses qui viennent de 30 ans et qui sont remarquables. 63, voyez. 63, 30 ans. Pardon?
C'était notre professeur.
Ben bien sûr. Bien sûr.
Et quel est le titre? La création.
Ben la création. Et c'est un livre de dogmatique. C'est dogmatique, c'est-à-dire que vous avez des thèses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors, vous avez la première partie, la création en général. Deuxième partie, les créatures en particulier. Section 1, la deuxième partie, l'homme dans le monde visible. Section 2, l'homme dans l'univers invisible. Et il vous parle des anges et des démons. Robert Guelluy. Guelluy. G-U-E-2-L-U-Y. Dont le dernier livre est sur la gratuité. Bon. Et alors, après avoir repris différents points de... Il reprend évidemment, comme tout bon dogmaticien qui se respecte, il prend d'abord les textes de la Bible, il reprend les textes de la tradition, et alors, il parle donc de différents enseignements de l'Église à partir de l'Écriture, et voyez, il parle de l'enseignement sur la création. Donc la Bible est aussi un enseignement. Cette narration, dit-il, du chapitre 2 de la Genèse, le deuxième texte de la création, a la théologie simple et profonde est rigoureusement monothéiste. On n'y trouve nulle trace de dualisme. Le serpent qui pousse l'homme à la désobéissance est l'un des animaux faits par Dieu et entièrement en son pouvoir. Dieu est mu par sa seule bonté. C'est dans la générosité de son cœur qu'il a formé le projet de façonner l'homme, de l'installer dans une terre fertile, de lui donner une compagne. Dans ce récit aussi, il faut sans doute reconnaître une parenté avec la théologie de l'Alliance. Le jardin initial n'est-il pas une anticipation de la terre promise? Et puis il parcourt un certain nombre de textes. Je vous en fais grâce. Mais je voudrais quand même vous dire deux choses. D'abord, vous dire, vous lire comment il voit ce texte que nous avons vu au chapitre 1 et 2, et puis justement ce qu'il dit à propos des anges. Tandis que le chapitre 1er racontait l'origine de l'univers entier pour le montrer s'achevant dans l'apparition de l'humanité, le chapitre 2 traite directement de la création de l'homme et ne fait allusion aux autres œuvres divines que pour décrire le Seigneur installant avec amour l'être humain dans un cadre de choix. Très manifestement, ici encore, l'homme est présenté comme le centre de l'intérêt que le Créateur porte à l'univers. Cet homme, Dieu l'établit affectueusement dans une terre fertile qu'il va confier à ses soins et où il vivra en sa compagnie. Avec une tendresse inquiète, le Seigneur découvre que l'œuvre réalisée en plaçant dans un beau jardin l'homme qu'il vient d'animer de sa respiration est une œuvre incomplète. Voyant que l'homme ne peut s'épanouir seul, il modèle pour lui des animaux et assiste à son emprise sur ce monde animé. Et vous sentez, c'est bien dit, hein? Mais il comprend que cette compagnie ne peut lui suffire. L'homme a besoin d'une aide assortie. Le texte exprime avec profondeur, sous son apparente naïveté, ce qui est la condition indispensable d'une vie vraiment humaine, la rencontre d'autrui, la réciprocité, le dialogue. Dieu va inventer l'affection. Il fait tomber sur l'homme un sommeil religieux pour façonner de sa substance la femme. Désormais, l'homme ne sera plus complet seul. C'est le couple qui sera une seule chair, c'est-à-dire un seul être vivant. Dans la femme, l'homme va reconnaître un autre lui-même. Son apparition lui révèle l'amour. Le cri qui jaillit de lui quand il s'éveille n'est pas l'exclamation qu'il pourrait avoir devant un objet utile, mais la première phrase désintéressée, la première traduction d'une attitude d'oblation. C'est l'heure où apparaît sur cette terre la communion entre deux êtres. C'est un moment grandiose que celui où pour la première fois une personne humaine en accueille joyeusement une autre. Et l'homme et la femme et leur réciproque accueil sont les dons de Dieu. Ils sont l'un pour l'autre sans aucune gêne ce qu'ils sont. La différence des sexes comme la relation de l'humanité avec le monde par le travail est bonne sans réserve à l'origine. Mais tout ceci n'est qu'une introduction, il prépare la relation de la chute, de toutes les chutes, qui vont mettre en relief la miséricordieuse fidélité de celui qui poursuivra infatigablement en Israël son entreprise de grâce. Et puis, il prend tous les textes à travers l'histoire de la Bible qui montrent justement cette miséricorde de Dieu en œuvre. Et il montre bien que dès le début, c'est le but du livre, c'est de montrer la miséricorde de Dieu à l'œuvre à travers ce que l'homme lui donne, c'est-à-dire beaucoup de péchés. Une pomme, deux poires et beaucoup de pépins, comme disait. Bon, alors, lorsque il doit, c'était ce qui lui avait été demandé, il devait parler de la création, et donc également de l'homme dans l'univers invisible, les anges et les démons. Et alors, il montre bien d'abord, dans une première partie de son travail, il montre bien la manière dont on représente l'ange dans la Bible varie suivant l'âge des textes, évidemment. Et on voit qu'on va de plus en plus vers une sorte de personnalisation. Au début, l'ange apparaît encore comme un intermédiaire très, très flou, en fait. Et petit à petit, et même finalement, vous avez dans le livre Tobie, on vous parle de Raphaël, dans le livre de Daniel, on vous parle de Michel, et dans le livre de Daniel également, on vous parle de Gabriel, donc des noms propres. Et alors, bien sûr, on essaie de voir de quoi il s'agit. En fait, ces anges qui n'ont pas leur de place dans la création n'intéressent pas directement, vous voyez bien, n'intéressent pas directement la Bible, en tout cas pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, on dira quelques mots, mais l'Ancien Testament, non. On dirait que ça va de soi. Et il est probable que c'est avec l'époque perse que tout ce monde entre Dieu et les hommes, qui n'est pas regardé comme des dieux, les anges ne sont jamais regardés comme des dieux. L'Épître aux Hébreux reprendra ce texte. Donc que les anges ne sont pas des dieux intermédiaires, mais ces anges sont en quelque sorte au service de l'homme. Ils sont comme l'expression de mission, de relation que Dieu noue avec l'homme à travers la réalité créée. Je dis bien la réalité créée. Je dis souvent que, d'une façon un peu humoristique, que l'ange est un fonctionnaire dont nous ignorons la vie privée. Nous connaissons sa fonction. La Bible nous parle toujours de sa fonction. Elle ne nous dit pas ce qu'ils sont en chair et en os. Elle ne nous dit rien sur leur nature, comme si ça nous échappait. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, on a essayé de les grouper, de les mettre, de les localiser, si vous voulez, dans ce qu'on appelle l'arbre de Porphyre. Le philosophe Porphyre a fait une échelle des êtres. Il y a l'être qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu. Il y a les êtres qui ont un commencement, qui n'ont pas de fin, qui sont invisibles, qui sont des purs esprits, comme on dit. Et ce sont les anges, et puis il y a l'homme qui est esprit non pur, puisqu'il est esprit dans la chair humaine. Et on a souvent mis les deux choses ensemble, pour essayer de localiser. Dans la Bible, on parle très différemment. Quand Dieu veut atteindre l'homme, quand Dieu veut lui dire quelque chose, il peut le faire directement. Et au début, il le fait directement, il ne se soucie pas d'intermédiaire. Mais plus on avance dans l'histoire, plus il le fait à travers des facteurs. Les facteurs portent des lettres, ce sont des messagers. Je sais que mon facteur existe parce qu'il me met des lettres à ma boîte, à mon adresse. Et cependant, je ne sais pas s'il est marié. Je ne sais pas s'il a une femme, quel âge a sa femme, quel âge il a lui, peut-être, des enfants, etc. Je ne connais pas sa vie privée, mais il est là. Il est là fidèlement. Et bien, c'est une image bien sûr, bien, dans la Bible, c'est un peu exprimé de la sorte. Il y a différentes manières de dire que Dieu ne se donne pas toujours dans l'immédiateté, mais qu'il utilise des réalités créées pour se donner à nous. Il y a la face de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a l'ange de Dieu, qui sont différentes manières de parler pour dire quelque chose qui n'est pas absolument immédiat. Et oui, et l'ange, nous ne savons pas très bien qui il est. L'angélologie, dit le chanoine Guélui, est fort peu développée dans les textes bibliques anciens. Les vieux auteurs inspirés ont conscience que l'univers est bien plus riche que ne l'est le seul monde visible. Ils font parfois allusion aux êtres cachés qui interviennent dans la vie des hommes, selon la volonté du Seigneur, et ils les désignent par leur mission. C'est pour ça qu'on leur met une assiette sur la tête, derrière la tête, pour leur dire qu'ils sont du monde céleste. On leur met des ailes pour dire qu'ils sont des envoyés. Leur corps est généralement transparent, à travers leur corps on voit les arbres d'en face, pour dire que ce ne sont pas des corps, et on ne sait pas très bien si c'est un garçon ou une fille, pas très bien, pour la bonne raison que ce n'est pas une question de sexe. Les représentations nous disent quelque chose de nouveau. Mais il est évident que les représentations, telles qu'elles sont faites dans, dans la peinture, sont des représentations conventionnelles, mais elles disent quelque chose par leur convention même. Il les appelle des anges, c'est-à-dire des messagers. Le mot français « ange » et le latin « angelus » ou « angelos » en grec, dont ils dérivent, sont des transpositions du terme grec. Certains textes évoquent l'armée du Seigneur. Le récit mystérieux de Genèse 6:1-4, nous l'avons vu, hein, parle des fils de Dieu, et de fait, certains pères de l'Église les ont identifiés avec des anges, appellation qui revient plusieurs fois dans les livres plus récents. Par exemple, dans le livre de Job, hein, vous avez la cour céleste qui est représentée avec tous les anges qui forment la cour et qui viennent en consultation auprès de Dieu, représenté comme un roi. Et parmi ces bons anges, vous avez le Satan. Pardon ? Mais voilà, on va y venir. Vous avez le Satan. Et le Satan est un très bon ange. Il n'a qu'un petit défaut, si vous voulez, c'est qu'il fait la grève du zèle. Il va toujours jusqu'au bout de la question. C'est un peu l'inquisiteur, si vous voulez. C'est un bon ange, en soi. Mais le mot le Satan dit obstacle. Et il se met en obstacle vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'il se pose... Et il faut que nous passions au-dessus. Il y a quelque chose qui nous arrête. Est-ce que cet obstacle, c'est une réalité différente de Dieu? Mais non pas. Certains pères de l'Église parlent du Satan comme étant le verso de Dieu. C'est Dieu quand on ne le reconnaît pas comme il est. Et quand Jésus voit Pierre, il lui dit qu'il ne peut pas aller vers sa passion, hein, quand il fait sa profession de foi, et Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, il explique, tu me fais obstacle. Alors voyez, il nous montre bien que, alors il prend là dans la vie de l'Église, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la prière. Il montre que l'ange, qui est en même temps la relation entre Dieu et l'homme, est en même temps celui qui porte les prières vers Dieu. Vous avez l'échelle de Jacob, là, hein, où les anges montent et descendent, et ont cette fonction. C'est une manière de dire que Dieu est présent dans la réalité terrestre à travers des réalités créées. Mais ça ne se voit pas, c'est invisible. L'activité des anges, la révélation nous laisse entendre que les anges interviennent par des missions exceptionnelles, mais aussi dans le cours normal du gouvernement divin, dans le déroulement de phénomènes naturels, dans l'exécution quotidienne de l'œuvre surnaturelle du salut. Ouais. Ils sont là, ce sont des familiers. Et vous avez... Des saints ou des hommes pieux qui, lorsque, par exemple, vous avez le bienheureux Pierre Favre, bienheureux jésuite, qui faisait des missions. Et lorsqu'il faisait des missions, donc à travers les pays qu'il parcourait, il priait toujours l'ange de chaque village, l'ange de chaque maison, et s'adressait à lui pour que sa mission... soit selon le plan de Dieu. Dans le déroulement de phénomènes naturels et l'exécution quotidienne de l'œuvre surnaturelle du salut. Et à partir du texte, plutôt le texte de Tobie, qui nous montre un ange accompagnant, hein, l'ange accompagnateur de Tobie, c'est-à-dire Raphaël, Dieu guéri. Raphaël, c'est une mission, il doit guérir. Raphaël, c'est Dieu guéri. Et donc, il montre cet homme accompagné de l'ange. Ange gardien. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle que soit maintenant la consistance imaginaire, parce que nous ne pouvons qu'imaginer des choses pareilles, quelle que soit la consistance imaginaire que nous puissions avoir, mettre dans notre esprit, Ça veut dire que Dieu a vis-à-vis de chacun de nous une conduite particulière. Ça, c'est sûr. De quelle manière s'en tire-t-il ? Est-ce par un monsieur qui nous accompagne ? Est-ce par une réalité qui est présente en nous ? Est-ce à travers des événements ? C'est tout ça. C'est tout ça. Mais en tout cas, ce n'est pas un être comme nous. Il invite, bien que de façon très discrète, et j'aime bien la manière dont il s'exprime, à penser, vous voyez, elle invite, bien que de façon très discrète, à penser que dans sa constante sollicitude pour les hommes, Dieu confie spécialement à la protection de certains anges, chacun de nous et les communautés que nous formons. Bon, voilà un peu ce qu'il nous dit, et puis alors, il essaie. Ça, c'est sa thèse, la troisième thèse. Il faut bien qu'il fasse ce qu'on lui a demandé. La nature des anges. Ainsi que nous l'avons remarqué, la Sainte Écriture ne parle des anges qu'en fonction de l'œuvre de grâce dont l'homme est bénéficiaire. Et voyez pourquoi les rabbins disent, c'est évidemment le sixième jour, c'est pas le premier. Il attend l'homme pour mettre les anges au service de l'homme. Elle parle donc de leur activité, mais ne fait que des allusions rares et peu nettes à leur nature. La Révélation nous présente les anges comme des êtres personnels, et à la différence des hommes, appartenant à l'univers invisible. C'est nous dire qu'ils sont spirituels sans nous renseigner avec précision sur cette responsabilité, sur cette spiritualité. Sont-ils de purs esprits ? Sont-ils seulement incorporels, tout en étant comme nous composés de forme et de matière ? La matière étant chez eux une matière subtile, comme ne l'est pas celle de notre corps. Qu'est-ce que c'est que la matière, finalement ? Est-ce que nous en savons le dernier mot ? L'angélologie thomiste les considère comme de purs esprits composés seulement d'essence et d'existence. Mais voyez, ce sont des définitions abstraites. Mais la façon de voir ancienne, continuée par l'école franciscaine du XIIIe siècle, qui met en eux une certaine composition de matière spirituelle et de forme, n'a pas été condamnée. Mais il y a une sorte de flou concernant ces anges. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un flou qu'il faut les traiter de volailles célestes. Et je l'ai entendu dans un sermon. Et ne pas se soucier de ce que cela pourrait signifier. La tradition artistique a donné aux anges un corps et un visage humain, mais dépourvu des caractères propres à l'homme ou à la femme. Vous voyez comment il dit cela ? Ces images ne suggèrent guère l'élan d'une vie spirituelle vécue dans toute sa vigueur, dans une force dont les personnalités humaines les plus profondes et les plus puissantes ne sont qu'un très pâle reflet. Alors, il conclut comme ceci. On ne peut avoir une vue complète de l'angélologie qu'après avoir parcouru les traités de la rédemption et de la grâce. De même que Dieu se donne à nous à travers toute la réalité créée, qui nous échappe sur bien des points, ainsi la rédemption nous remonte vers Dieu à travers la même réalité créée et personnalisée par Jésus lui-même. On y verra comment les anges participent à la vie surnaturelle qui rayonne du Seigneur Jésus, quelle place ils tiennent dans le corps mystique par la communion des saints, en vivant avec nous l'histoire du salut, notamment à quel titre ils sont objets de culte. Je passe un peu plus loin, et puis alors on arrive au démon. Il y a plusieurs mots pour dire cela. Il y a diable, il y a démon, il y a Satan. Il ne faut pas tout mêler. Les mots signifient des choses distinctes. Ah, Lucifer, donc autre chose. Ouais, Lucifer, attends, parce que comme tu parles de Lucifer, c'est vrai que j'avais oublié celui-là. Et il faut évidemment citer le texte d'Isaïe où Lucifer arrive, bien entendu. Bon, évidemment que je le retrouve. Voilà. c'est un chapitre.
Pourquoi est-ce qu'on leur a donné des noms masculins?
Ah, il y a aussi des démons dans la Bible. Oh, c'est ça qui est comme ça. Il y a la fameuse. Il y a notamment la fameuse démon de nuit qui s'appelle la Lilith. Ah oui, oui, oui. Là, il y a. C'est vrai qu'on leur donne des noms masculins. Voilà. Aux anges comme aux démons, d'ailleurs. C'est vrai. Mais oui. Que vous voulez. Alors, ils nous mettent. Bon, il nous dit d'abord qu'il y a des personnifications littéraires. Personnifications littéraires. Et précisément. Puisqu'on parle de Lucifer, c'est une personnification littéraire, Lucifer. Vous savez ce que ça veut dire? Lucifer, c'est celui qui porte la lumière, un porte-lumière. Qu'est-ce que c'est qu'un Lucifer? Ben, c'est un candélabre. Hein? C'est bien ça, un Lucifer. Et nous en connaissons beaucoup d'entre eux. Et alors, quand on parle, Isaïe au chapitre 14e, lorsqu'il parle de la mort du roi de Babylone, mais voilà, le roi de Babylone est comparé à un grand lampadaire, au-dessus duquel on a mis une grande bougie, et cette bougie se manifeste au-dessus, hein. Elle exprime l'orgueil. Eh bien, cette lumière, cette porte-lumière, ben, va tomber. Le Lucifer va tomber. Et c'est le roi de Babylone. Je vous lis le texte. À propos, donc, du roi de Babylone qui va mourir, depuis que tu t'es couché, hein, on ne monte plus pour nous abattre, disent les cyprès. Les cyprès sont un petit peu tranquilles parce que le roi de Babylone a cessé de couper les grandes forêts de cyprès, hein, et de cèdres du Liban pour ses maisons et ses palais à lui. En bas, le Sheol a tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre. Le Sheol, c'est la question, hein. C'est l'au-delà, mais le mot Sheol veut dire question. Qu'est-ce que c'est que l'au-delà? C'est une question. Une sorte de frigo central, hein, de surgélateur, où on attend. Il a réveillé pour toi les ombres, tous les potentats de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, donc, hein, on cite tous les rois de la terre devant la chute de l'empereur de Babylone. Toi aussi, tu es déchu comme nous. Devenu semblable à nous, ton faste a été précipité au Sheol avec la musique de tes cithares. Sous toi s'est formé un matelas de vermine. Les larves te recouvrent. Et toi qui étais si grand, hein, tu n'es plus qu'un cadavre, mangé par la vermine. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, Lucifer, fils de Louran. Voilà d'où vient le nom de Lucifer. Alors évidemment, hein, ça a travaillé. As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux. Au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée aux confins du Septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. Mais tu as été précipité au Sheol, dans les profondeurs de l'abîme. Et c'est devenu l'image de la chute des anges. Pardon? D'orgueil. Et alors Lucifer, c'est celui qui dit, ben, non serviable. C'était dans je ne sais combien de textes et même de représentations, hein, de Lucifer qui dit, je ne servirai pas. Et certains pères de l'Église ont dit, comment Lucifer, comment le diable porte-lumière, le démon, le bon ange, le porte-lumière, comment a-t-il pu dire, je ne servirai pas? Donc c'est que ces êtres spirituels ont peut-être une liberté plus grande encore que la nôtre. Ils peuvent, d'un moment, dans un moment indivisible, ils peuvent se poser ou s'opposer pour ou contre Dieu. Alors, ceci c'est chapitre 14 d'Isaïe, versets 9 à 15. Alors, je vais revenir après. Alors, dans l'Ancien Testament, on trouve, comme il dit, des personnifications littéraires, allusion aussi à divers êtres nuisibles, les démons, daimon, un daimon, ça veut dire une sorte d'aliénation, quelque chose qui m'aliène, un daimon. On dit que quelqu'un est heureux quand il a un bon démon, eudaimon, il a un bon démon en lui. Les démons ont sans doute joué un assez grand rôle dans certaines pratiques populaires de magie, de divination, de nécromancie, qui ont dû sévir en Israël comme dans tous les peuples de l'Antiquité. Mais ils n'ont guère de place dans la religion biblique. Il est question dans quelques textes d'esprit qui altèrent les sentiments de l'homme. Mais ces allusions sont vagues et c'est seulement dans des passages tardifs que certains êtres hostiles à l'homme sont nommément désignés. Et probablement ça c'est sous l'influence de toute la démonologie persane qui a influencé après l'exil l'histoire d'Israël.
C'est pas le fait de Saül ?
Ah, ça c'est différent. C'est encore différent. Ça c'est un mauvais esprit venant du Seigneur, venant de Yahvé, qui tourmentait Saül. Il était mélancolique, le gars. Il avait ses moments de déprime. Et quand un mauvais esprit venant du Seigneur, on dit comme ça, un mauvais esprit venant du Seigneur tourmentait Saül, eh bien David l'aiguillait, prenait sa guitare, il jouait un peu de guitare et ça passait. Et il faut décortiquer chacun des textes, évidemment, pour voir qu'est-ce qui est dit dans les textes. On ne rencontre d'ailleurs que trois noms propres, celui de Satan, celui d'Azazel. Azazel, vous ne connaissez peut-être pas ce monsieur, Azazel, c'est celui vers lequel on envoie le bouc émissaire. Aujourd'hui, Yom Kippour, vous savez qu'il y a deux boucs, il y en a un que l'on sacrifie, puis il y en a un que l'on charge de tous les péchés d'Israël, on lui met tous les péchés d'Israël entre les cornes, et on l'envoie promener au désert. Et on fait bien attention qu'il ne revienne pas. On l'envoie vers Azazel, le bouc chargé des péchés. Mais il y a lieu de se demander s'il ne s'agit pas simplement d'une personnification symbolique. Et puis il y a celui d'Asmodée. Asmodée, c'est le démon que Tobie a chassé avec l'aide précisément de l'ange Raphaël. Mais voyez qu'il y a, là, on peut mettre ça dans le cadre, comme le fait M. Gelluy, on peut le mettre dans le cadre des démons, c'est-à-dire des réalités que nous ne dominons pas, qui sont invisibles, pourtant qui sont réelles, et qui altèrent la réalité de l'homme. Quelqu'un qui est possédé, comme on dit dans le Nouveau Testament. Et la plupart du temps, si vous regardez ce terme de possédé, c'est daimonizomenos, celui qui est endémonisé. Satan mérite une mention spéciale. Il faudrait dire le Satan, parce que dans la Bible, c'est le Satan, l'obstacle. En trois endroits, la Bible désigne par ce terme qui signifie l'opposant. Par exemple, dans un procès que les Septante ont traduit par diabolos, le calomniateur, le diviseur, diabolos. Un esprit qui nuit à l'homme. Dans les trois cas, ces insinuations prennent l'apparence du bien, mais correspondent à l'orgueil. Le Satan, c'est un obstacle que nous mettons ou que l'on nous met sur le chemin. Dans les trois cas, il apparaît comme l'ennemi de l'homme, bien plus que de Dieu, à qui il est soumis, comme le sont d'ailleurs toutes les puissances malfaisantes dont l'Ancien Testament fait mention. Ce n'est jamais un anti-Dieu. En évoquant les forces cachées et redoutables pour l'homme, les textes de l'Ancien Testament ne les conçoivent pas comme organisés sous un chef, l'opposant. L'opposant n'est qu'un esprit malveillant parmi d'autres. Il y a un petit peu l'image qu'a prise, par exemple, dans la cité de Dieu, saint Augustin, qui montre, mais qui est déjà en quelque sorte présente dans Daniel, puisque vous avez Michel là qui prend la tête des armées d'Israël. Il faut surtout noter que dans le cadre du monothéisme rigoureux d'Israël, et avec la manière de penser biblique qui rapporte à Dieu lui-même tous les faits, autant les mauvais que les bons, les puissances hostiles à l'homme sont soumises au souverain domaine de Dieu, qui les utilise, comme les hommes d'ailleurs, pour châtier ou pour mettre à l'épreuve, au même titre que les anges, selon qu'ils le décident avec une totale liberté. Ça, c'est la manière Donc ça, hein, c'est présent dans les textes. L'Ancien Testament est donc bien à l'extrême opposé de tout dualisme. Si je prends ce texte-là, c'est parce que Shannon Gelui travaille avec très peu de mots. Il ne fait pas de grandes circonlocutions, il vous dit vraiment les choses de façon très simple et très nette. Le Nouveau Testament nous donne de l'emprise du mal une vue beaucoup plus saisissante que l'Ancien. Il dépeint les puissances adverses comme très actives et les présente non plus seulement comme ennemis de l'homme, mais comme opposés à Dieu et notamment à son Christ. Et là, c'est vrai. Il y a quelque chose qui va plus loin dans le Nouveau Testament. Leur action est systématique. Et là, le Satan apparaît comme leur chef. Ce sont des esprits créés bons, mais pervertis par le péché. Le souci de tous les textes est d'affirmer l'empire de Dieu sur ses ennemis. Et puis alors, il parcourt les synoptiques, la théologie de Saint Paul, la théologie de Saint Jean, d'autres textes du Nouveau Testament. Et notamment, vous avez, hein, il dit deux autres passages du Nouveau Testament, hein, invite à résister au diable, deux autres parlent du jugement de Dieu à l'égard des anges qui ont par le péché perdu leur principauté à jamais. Et c'est souvent ce texte, dans l'épître de Jude, que nous avons en mémoire, ou même si nous ne l'avons jamais lu, qui nous a été transmise par une certaine imagerie. Il faut encore distinguer l'imagerie du texte lui-même. Bon. Jude. L'épître de Jude, donc, qui se trouve juste avant l'Apocalypse, après les épîtres de Saint Jean. Donc, au verset 6, donc, comme il n'y a qu'un chapitre, hein, bon, je veux vous rappeler, à vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple de la terre d'Égypte, a fait périr ensuite les incrédules. Hein, toujours ça, ce bien et ce mal. Gendarme voleur, comme je dis. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand jour qu'il les a gardés dans les liens éternels au fond des ténèbres. Ouais. Un petit écho de ce que nous avons vu tout à l'heure chez Saint-Pierre. Ainsi, Sodome, Gomorre et les villes voisines, qui se sont prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente, c'est-à-dire l'homosexualité, sont-elles proposées en exemple, subissant la peine d'un feu éternel? Pourtant, ceux-là aussi, en délire, souillent la chair, méprisent la Seigneurie, c'est-à-dire Dieu lui-même, blasphèment les gloires, c'est-à-dire le monde divin. Pourtant, l'archange Michel, lorsqu'il plaidait contre le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, encore quelque chose qui vient de la théologie juive, n'osa pas porter contre lui un jugement outrageant, mais dit « Que le Seigneur te réprime ». Quant à eux, ils blasphèment ce qu'ils ignorent, ce qu'ils connaissent par nature, et ce qu'ils connaissent par nature comme des bêtes sans raison, ne sert qu'à les perdre. Note de la Bible de Jérusalem, Jude paraît dépendre ici de l'apocryphe Assomption de Moïse, où l'archange Michel, hein, qui vient dans le livre de Daniel, entre en contestation avec le diable, qui, après la mort de Moïse, réclamait son cadavre. Ceci fait partie de toute la légende du Midrash de la mort de Moïse, où Dieu envoie, au moment fatidique où l'âge de Moïse est arrivé, hein, à être complet, 120 ans, Dieu demande à différents anges, dont Michel, dont Gabriel, etc., il interroge plusieurs anges et il leur demande d'aller chercher l'âme de Moïse. Et ils refusent tous. Et finalement, Dieu vient lui-même, et pour retirer de Moïse son âme, il le baise sur la bouche. Il est mort dans un baiser de Dieu, hein, ce qui est dans la tradition d'Israël, le sens de toute mort. La mort est un acte d'amour, un acte d'union, un acte de rencontre, de visitation avec Dieu. C'est comme ça que les choses sont vues dans le Midrash. Et alors, il y a toute une contestation, oui, parce que le Satan dit, moi je vais aller. Et Michel dit, non, je ne veux pas que tu y ailles. Et puis quand Moïse est mort, hein, alors le Satan va, et que Dieu est allé lui-même, finalement, et le Satan veut réclamer le corps de Moïse, et Dieu va lui-même ensevelir le corps de Moïse, on ne sait pas où. Non mais voyez, ça fait partie de cela. Mais le texte, évidemment, ne le dit pas. La note nous renseigne qu'il y a là tout un apocryphe qu'on peut évidemment aller voir.
Oui. Vous avez cité là tantôt 14 en Isaïe,
oui,
la satire sur l'amour d'un tyran.
Oui.
Mais il y a une chose qui m'a toujours frappé depuis longtemps. On pourrait quasi dire que c'est un chant messianique encodé. Parce que si vous retirez tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pécaminueux, c'est le Christ lui-même. Je ne fais que 4 petites phrases. Le jour où Yahvé t'aura donné du repos, après tes souffrances, tes tourments, et la dure servitude à laquelle tu fus asservi, tu en donneras, etc. Mais je pense beaucoup. J'arrive à Astre du matin, c'est l'Apocalypse. Mmh. Fils de l'aurore, c'est Sol Oriens.
Oui.
Est-ce l'homme, ex homo, toi, tu as été hors de ton sépulcre. Si on efface tout ce qui est mauvais, on a en filigrane le visage du Christ.
Exactement. Exactement. Et là, les pères de l'Église ont su le voir aussi. Exactement. Et ils ont dit justement, il suffit d'enlever le mal pour découvrir en filigrane la présence de Jésus. Et c'est ainsi que Jésus voit, même dans le plus grand tyran, que Dieu voit, même dans le plus grand tyran du monde, il reconnaît les traits de son Fils. Hein? Ça, c'est la manière dont les pères de l'Église lisent le texte. Évidemment, nous ne lisons pas les textes ainsi parce que nous restons à la superficie. Alors, je voulais simplement arriver à la conclusion que tire le chanoine Guélu. Le Nouveau Testament parle des démons comme des anges en fonction de l'histoire du salut seulement. Ce qu'il veut surtout inculquer est un optimisme. Le prince du mensonge, des ténèbres, de la mort est vaincu par le Christ. Et le chrétien triomphe des êtres infernaux avec le Seigneur. Les textes néo-testamentaires ne donnent qu'indirectement quelques lumières sur ce que ces êtres sont. Ils nous disent qu'il s'agit d'esprits impurs, c'est-à-dire mélangés, qu'il en existe des multitudes, que le Satan est leur chef, agissant en ce monde par de nombreux serviteurs qui entraînent l'homme au péché ou à servir son corps. Et à ce sujet, il est très bon de lire le petit livre de Lewis, hein, qui s'appelle « Tactique du diable ». Hein, ce sont les conseils d'un maître des novices, d'un diable maître des novices, hein, qui donne à de ses novices, diable, qui fait ses premières armes. Alors que dans l'Ancien Testament, le Satan était présenté comme l'ennemi de l'homme plutôt que de Dieu, il est nettement dans le Nouveau Testament celui qui est en conflit avec Dieu, en étant l'adversaire du Christ. C'est toujours face à la stature du Christ qui est en nous. Quelle est l'origine du Satan et de ses suppôts? Les évangiles ne le disent guère. Les termes assez semblables que saint Paul emploie pour parler des êtres invisibles, bons ou mauvais, qui sont tous inférieurs au Christ, fait penser que pour lui, ils sont originellement de la même famille. Les diables sont des anges déchus. L'Apocalypse les décrit clairement comme des révoltés. Enfin, les deux derniers textes du Nouveau Testament que nous avons cités disent explicitement que ce sont des anges qui ont péché. Et alors, reprenant de nouveau toute l'histoire de la vie de l'Église, il nous dit ceci. Il n'a pas proprement parlé une conclusion, mais il nous dit ceci. Les études Attendez. C'est ici. La révélation s'occupe de l'univers satanique, c'est la conclusion finale. La révélation s'occupe de l'univers satanique pour nous dire de quoi, ou plus exactement de qui, nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus. Elle nous invite ainsi à une vue cosmique de notre condition humaine, qui dépasse simplement les limites de l'humanité. Nous sommes engagés dans une lutte immense qui déchire l'univers invisible comme elle met la division dans l'univers visible. Dans ce combat, le Christ est vainqueur et s'achemine vers le complet triomphe. Nous lui sommes associés par la foi. Il faut répéter ici encore que le traité de la création n'est qu'une introduction à l'étude de l'œuvre divine. Et l'œuvre divine, c'est en Jésus, et c'est l'œuvre salutaire. C'est seulement au terme des traits relatifs à toute l'histoire du salut qu'on peut avoir une vision d'ensemble de la place des démons dans l'univers. Vous voyez, quand nous lisons un texte dogmatique comme ceci, il est possible que nous nous découvrions frustrés. Nous voudrions en savoir davantage. Et tout le davantage que nous voudrions savoir, vous pouvez le trouver dans les apocryphes, c'est-à-dire dans l'imagerie. Et nous ne pouvons pas, évidemment, museler tellement notre imagination que nous essayons de nous représenter des choses. Mais vous verrez aussi, et c'est pour ça que j'aime bien ce livre, la sobriété avec laquelle le dogme dit des choses. Elle ne dit pas plus que ce qu'elle peut dire. Et malheureusement, nous mettons souvent dans ce que le dogme dit, nous mettons souvent toutes sortes de choses que nous y avons ajoutées. Oui ?
Pourquoi est-ce que finalement tout ça est vu en fonction de l'homme ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de rédemption pour le démon ?
Mais la question que nous... Que, c'est...